Salut Luc.
Salut.
Bon, on a tous vu les images là, des Juifs hassidiques qui se sauvaient des policiers à Outremont, qui ont été arrêtés. On sait qu'il y en a qui ont été arrêtés pour avoir proféré des menaces à l'égard des policiers. Tu as été maire de l'arrondissement du Plateau. Dans le Plateau, il y a des communautés de Juifs hassidiques. Écoute, à quel point est-ce que c'est difficile de négocier, de composer avec eux pour en venir à des terrains d'entente sur toutes sortes de sujets?
Bon, c'est très difficile parce qu'ils réinterprètent constamment la loi en fonction de leurs besoins, de leur réalité. Mais à la longue, j'ai fini par comprendre quand même que c'est une réalité vraiment des besoins qui sont réels. Parce que regarde, la synagogue, là, c'est pas juste comme nous une église, là. C'est pas la même chose. C'est un endroit, bon, les hommes y vont tous les jours pour la prière, mais aussi pour les rassemblements. Puis c'est là aussi qu'ils font les fêtes religieuses. Pas juste la fête religieuse, mais la fête tout court. Donc, c'est là, la synagogue, c'est le lieu vraiment de communauté, de fête civile. Non, mais ça n'existe pas une fête civile pour les hassidiques, mais du moins, c'est là qu'ils font toutes leurs fêtes. C'est leur restaurant, c'est leur YMCA, c'est leur groupe communautaire. C'est tout à la fois. Alors, c'est difficile pour la réglementation d'attraper cette chose-là, parce qu'en même temps, c'est un lieu de prière, d'encadrer, parce que c'est, en même temps, c'est un lieu de prière, essentiellement un lieu de prière. Donc ça, c'est la première chose. Alors, leur couper l'accès à la synagogue, c'est pas de la tarte. Si je veux dire, les gens peuvent un peu faire preuve de compassion puis d'empathie en se disant, ben, quand on a longuement discuté à savoir est-ce qu'on coupe Noël, est-ce qu'on coupe pas Noël, il y a eu quand même beaucoup de gens qui avaient du dépit puis qui disaient, oh mon Dieu, mais c'est quand même majeur, Noël, etc. Mais multiplie ça par 100 là, pour la synagogue. Et ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas juste une question du nombre de fois où ils y vont puis la fréquentation qu'ils en font. Les hassidiques acceptent des contraintes de vie extrêmement importantes pour vivre ce mode de vie-là.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Mais ils vivent dans la pauvreté, essentiellement. C'est que la prière, sauf quelques-uns, bon, il y a les leaders des communautés, eux, sont pas dans la pauvreté. Puis, il y a quelques personnes qui se distinguent par leur revenu formidable. Il y a une famille qu'on connaît bien, là, les Rosedev, le groupe Rosedev. Mais en règle générale, ils prient toute la journée. Ils étudient la Torah. Et ils ont du travail aussi, mais ils ont des petits travaux. Ils ont des travaux qui sont faits pour pouvoir leur permettre de prier. Donc, c'est pas des carrières extraordinaires dans un hôpital ou,
Tout ça est intra-communauté.
C'est intra-communauté. Ils font des gros, 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 gros sacrifices et c'est au centre de leur vie. Alors, leur couper ça, c'est extrêmement... On peut pas juste le faire avec un haussement d'épaule.
Mais Luc, bon, on sait, là, d'abord, là, c'est toujours hasardeux de prendre une communauté puis de regarder ça comme si c'était là, un bloc homogène. Là, t'sais, la communauté juive, c'est morcelé en plusieurs affiliations. Les hassidiques, c'est une forme d'affiliation.
Oui.
Maintenant que ceci est dit, est-ce que ce qu'on a vu en fin de semaine, est-ce que c'est le fruit d'une ignorance des lois ou c'est le fruit de « on s'en fout des lois » ?
Non, c'est quelque chose entre les deux. C'est une négociation constante avec l'esprit de la loi. C'est-à-dire que eux, ils se disent, bon, ça, c'est la loi. OK, à ce temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour la contourner? Et ils essaient...
OK, quand tu me dis ça, là, tu te bases sur ton expérience de maire qui a dû négocier avec la communauté.
Okay, moi, mon premier réflexe, c'est de dire, je vais négocier avec les hassidiques, ils ne sont pas différents des autres. D'ailleurs, je les connais très bien. On s'est assis souvent ensemble. Ils sont venus me porter du pain à Pâques. On a discuté long, en large et en travers. Moi, j'ai fait avec les hassidiques des choses que je n'étais jamais fait ailleurs. Comme par exemple, je leur dis, OK, je te change le zonage d'une ancienne usine. Tu vas pouvoir mettre une synagogue au rez-de-chaussée à condition que tu protèges les ateliers d'artistes en haut. Et ils ont accepté. Puis les ateliers d'artistes en haut, laisse-moi dire que c'était assez rock'n'roll. Là. C'était pas... c'était pas des artistes qui faisaient des photos de bateaux. Là,
des natures mortes.
Non. C'était des artistes modernes.
C'était pas très orthodoxe.
Non, pas en tout. Puis ils se fréquentaient au quotidien. Là. Ça se brassait, tout ce monde-là. Ils se voyaient, ils se saluaient et ils acceptaient. On a négocié sur plein de choses. Par exemple, on a négocié une dérogation pour la construction d'une synagogue beaucoup plus grande que d'habitude sur Avenue du Parc en échange d'un d'une architecture qui aurait de l'allure. Parce que souvent, ils s'installent dans des anciens locaux commerciaux, puis ça n'a pas d'allure, puis là, les gens gueulent, puis là, ils disent ben, « Les gens n'aiment pas nos synagogues. » Mais j'ai dit « As-tu vu la tronche à ta synagogue? Fais-en une belle, puis tu vas voir, ils vont l'aimer. » Puis il ne me croyait pas, le gars. Il m'a dit « Non, même si on en fait une belle, les gens vont se liguer contre nous. » Ben non, ils en ont fait une belle, puis les gens ne se sont pas ligués contre eux. En tout cas, toujours est-il, j'ai souvent négocié avec eux. Mais dès que tu oublies une virgule quelque part dans un texte qui leur permet de faire quelque chose qui est contre l'esprit de la loi, mais qui ne contredit pas vraiment la loi, ils vont le faire. Ils voulaient ouvrir une synagogue sur l'avenue du Parc. On avait dit non, il y en a trop, il y en a 14 une à côté de l'autre. Et à un moment donné, ça prend quand même autre chose pour que
ça prend une mixité.
Ça prend de la diversité. Il ne faut pas que quelqu'un qui n'est pas assidique se sente pas dans sa ville lorsqu'il marche sur ce coin de rue-là. Ils ont dit c'est correct. Ils ont ouvert à la place un local de musique qui était finalement une synagogue déguisée. C'était une école de musique, mais c'était des chants religieux. Donc, finalement, c'était une synagogue. À un moment donné, ils voulaient agrandir. Ils ont fait souvent ça. Ils achètent une maison pour faire une première synagogue. La communauté grossit. Ils veulent acheter la maison d'à côté. Mais là, finalement, quand tu achètes quatre maisons une à côté de l'autre, comme ça s'est fait sur la rue Clark, ça n'a plus d'allure. Là, on avait dit non, c'est une maison, c'est une, c'est pas deux. Mais en fait, un pont en bois entre les deux maisons en arrière pour pouvoir communiquer. Ils faisaient des dortoirs illégaux. C'est jamais des grosses affaires des tricheries pas possibles, de la corruption jusqu'en haut. Là. Non, c'est jamais ça. C'est une façon de pouvoir continuer à croître et à exercer leur religion comme eux entendent le faire, parce qu'ils considèrent que c'est la chose la plus importante au monde, puis ils sont cohérents là-dedans. C'est pas comme si c'était inventé ça juste pour d'autres fins. Là. Ils sont vraiment comme ça.
Passer les menottes, débarquer puis donner des amendes, est-ce que c'est une façon qui peut les raisonner?
Oui. Oui, passer les menottes, je pense pas qu'ils l'ont fait parce
oui,
que la personne...
Non.
Oui, je sais, mais ils l'ont pas fait parce qu'il avait prié.
Ils l'ont fait parce qu'il y a eu des menaces et des policiers.
C'est ça. À un moment donné, ça fera. J'écoutais l'entrevue d'Epstein ce matin avec M. Arcan, puis encore là, c'était comme une négociation avec la vérité en disant... Il y avait 100 personnes dans la synagogue. Oui, mais la loi nous permet d'avoir plus que 10 personnes à condition qu'il y ait plus qu'une porte. Bon, premièrement... Il n'y a pas 10 portes dans une synagogue. Fait que s'il y a 100 personnes dans la synagogue, c'est illégal. Deuxièmement, dans les synagogues, les hommes et les femmes ne rentrent pas par les mêmes portes. Et alors, nécessairement, il y a beaucoup de portes parce que...
Oui, mais Luc, je t'arrête une seconde. Porte, c'est pas une adresse civique. Tu peux bien avoir 10 portes, mais tu n'as pas 10 adresses civiques.
C'est ça. Et donc, bon, tu vois, c'est cette négociation-là. Et puis, là, il la défend publiquement. Alors, mais c'est une espèce de jeu... Mais à un moment donné, tu sais, pour un règlement d'urbaniste, tu vas avoir une deuxième porte parce qu'à un moment donné, nous autres, on s'est obstinés pendant des années pour pas avoir une deuxième porte à une maison parce que c'est un bâtiment patrimonial. Non, vous ferez pas un trou dans le mur pour faire une porte. Mais là, je comprends, tu sais. L'obstination, c'est un peu, c'est presque rigolo, tu sais. Je veux dire, non, vous le ferez pas, oui, on va le faire, non, vous le ferez pas, oui, on va le faire, etc. Mais quand on te se rappelle qu'une partie du début de la contamination a été accélérée au Québec par des fréquents échanges avec New York et notamment un mariage très connu, quand on sait qu'à Brooklyn, ça a été un foyer de contamination important, quand on sait que les écoles sont restées ouvertes pendant la deuxième vague, la première vague, pardon, les écoles pour garçons, à un moment donné, tu disais, oh, là non, on n'est plus dans le même game, là. Non, attends, là, c'est la santé publique. Là, c'est pas de l'urbanisme, c'est pas, moi, je vais faire ma religion. Non. Là, c'est tu risques de faire déborder les hôpitaux, puis ça, c'est pas négociable.
Merci, Luc, à demain.
Merci à toi.